En ce temps-là, le roi Marche était roi de Cornouailles, pays de landes, de mer et de vent. Marche, roi de Cornouailles, n'aimait au monde qu'une seule chose, son cheval. Il faut dire que c'était un cheval magnifique, entièrement noir, fin et musclé, si puissant que d'un bond il pouvait franchir les plus profonds ravins, les rivières les plus larges. Et dans la boue des chemins, son galop était si léger qu'on ne voyait même pas la trace de ses sabots ferrés d'argent. Il courait dans le vent, aussi bien que sur la terre, que sur la mer. Nulle tempête ne lui avait jamais fait peur. Il se riait des vagues, et c'est pourquoi on l'appelait « Morvache », c'est-à-dire en breton « cheval marin ». Un soir d'automne, comme le ciel était gris et lourd, le roi Marche monta son cheval et s'enfonça dans la forêt. Pourquoi partir si tard? Il ne le savait pas. Quelque chose le poussait en avant. L'odeur du gibier, peut-être. À l'orée de la clairière, il s'arrêta, subjugué. Une biche blanche, magnifique. Une biche si belle que jamais il n'en avait vu d'aussi belle. Elle leva ses yeux doux et rencontra le regard du chasseur. Elle sut alors qu'il était son ennemi. Affolée, la biche bondit vers les fourrés, fila entre les arbres, fuyant, si vite qu'aucun cheval n'aurait pu la suivre. Aucun sauf Morvache. Il la traqua sans relâche par les collines et les vallées, jusqu'au bout de leur force, jusqu'au bout du royaume, jusqu'à la dernière falaise. Prise au piège, la biche s'arrêta et tourna vers Marche un œil suppliant. Marche banda son arc. Alors la biche s'élança, et dans un bond prodigieux, elle atteignit un rocher qui surgissait de la mer. Marche était un bon tireur, la distance ne lui faisait pas peur. Il pointa de nouveau sa flèche. C'est alors que les yeux de la biche se firent désespérés et qu'une larme roula sur son poil immaculé. Le roi ne fléchit pas, il avait gagné. Il avait vaincu cette biche, il la tuerait. La flèche roula droit vers le cœur. Marche resta stupéfait. La biche avait saisi la flèche dans sa bouche et la renvoyait vers lui. Il ne fut pas touché. Mais il sentit que Morvache fléchissait sur ses pattes. le cheval s'effondra, puis tomba de la falaise dans la mer en furie, entraînant son cavalier. Fou de douleur et de rage, Marche prit pied sur le rocher battu par les vagues et sortit son poignard. Mais voilà que devant lui, il n'y avait plus de biche, seulement une femme très belle. « Roi cruel, dit-elle, tu n'as pas voulu épargner la biche, je ne t'épargnerai pas non plus. Puisque tu regrettes tant ton cheval, je vais t'en laisser quelque chose. Tu porteras désormais ses oreilles et sa crinière. » De sa main, elle caressa le corps de Morvache qui flottait sur l'eau et le ressuscita. Puis elle sauta sur son dos et s'enfuit sur la mer. Aussitôt, la mer redevint calme et lisse. Alors Marche vit son reflet dans l'eau, et ses yeux s'agrandirent d'effroi. À la place de ses oreilles, à la place de ses cheveux, il portait les oreilles et la crinière du cheval Morvache. Le roi Marche s'enferma dans son château, ne voulant plus voir personne. Il se contemplait dans la glace avec horreur. Ses oreilles pointues et cette crinière qui poussait. Que faire? Il faudrait appeler Yonick, son coiffeur. Oui, mais si le coiffeur le voyait? Il raconterait partout que le roi Marche avait les oreilles du cheval Morvache. Il faudrait donc le tuer. Et Marche n'avait pas envie de tuer Yonick. Il le connaissait depuis si longtemps. Il fit appeler un coiffeur du village. Les jours et les mois passèrent, et, au village, on commençait à s'inquiéter. Le coiffeur de la place, d'abord, qui était allé au château, n'en était jamais revenu. Et puis l'autre, celui du bout de la rue. Et puis les deux villages d'à côté, et puis les vieux, et puis les apprentis. Tout le monde avait disparu. Non, vraiment, il ne faisait pas bon être un coiffeur sur les terres du roi Marche. D'ailleurs, aujourd'hui, des coiffeurs il n'y en avait plus. Le dernier coiffeur était mort et la crinière continuait d'allonger. Le roi dut se résoudre à faire venir Yonick. Pourtant, il voulait le garder en vie. « Écoute, dit-il à travers la porte, avant d'entrer, il faut que tu jures trois choses. Premièrement, tu n'auras pas l'air étonné. Deuxièmement, tu ne riras pas. Troisièmement, tu ne raconteras à personne ce que tu auras vu. Jure-le. » Yonick jura. Quand Yonick vit le désastre, il resta de marbre. Il reconnaissait bien la crinière et les oreilles du roi Morvache, mais garda ses réflexions pour lui. « Vous auriez dû m'appeler plus tôt, soupira-t-il. Je possède des ciseaux magiques, je vous couperai la crinière, et elle ne repoussera jamais. » Le roi fut d'abord bien soulagé, puis sombra de nouveau dans le désespoir, car on ne pense jamais bien longtemps à son bonheur. « Et mes oreilles ?»« Ne vous en faites pas, je vais vous faire une coiffure originale, les rabattre en arrière et vous nouer sur la tête un long tissu, avec des torsades et des nœuds. Personne n'y verra rien. » Le roi Marche fut si heureux que pour la première fois depuis son aventure, il éclata de rire. Yonick avait juré. Il ne dirait rien à personne. Pourtant, certains jours, ça le rendait malade de connaître un secret aussi important. Il avait envie de le crier, de le chuchoter, de le siffler. ou même de le prononcer avec les lèvres, sans émettre un seul son, comme ça. Le roi marche à les oreilles du cheval Morbache. Mais il n'avait pas le droit, pas le droit, car il avait juré. Un jour, cependant, Yonick trouva son secret trop lourd. Il courut au bord de la mer, sur la dune déserte, et creusa un trou dans le sable. Un trou profond, étroit, juste pour y passer la tête. Il enfonça son visage dans l'ouverture et cria « Le roi marche à les oreilles du cheval Morvache !» Puis, vite, il reboucha le trou soigneusement et s'assit dessus. Il se sentait mieux. Il écouta un moment dans le vent, dans le bruit des vagues, dans le chant des oiseaux, pour être sûr que le secret ne s'était pas échappé. Enfin, rassuré, il rentra au château. Au printemps suivant, trois roseaux poussèrent à cet endroit. Deux années passèrent. La vie reprit son cours. Au début, on jugea un peu bizarre le turban du roi Marche. Mais finalement, on le trouva joli et tout le monde se mit à se coiffer de cette façon. Et puis un jour... C'était la veille du mariage de Bleuwen, la sœur du roi. Au château, on préparait une grande fête. Les musiciens étaient tous là, à accorder leurs biniou et leurs bombardes pour le lendemain. Quand tout fut prêt, ils se précipitèrent aux cuisines. La tradition voulait qu'on leur offre un bon repas, et les bons repas en ce temps de misère étaient rares. À minuit, quand le petit peuple des Korrigans pénétra au château, il découvrit avec stupeur et colère que les musiciens n'avaient rien laissé du festin. Il ne restait dans la pièce que les instruments de musique. Les Korrigans tenaient leur vengeance. Ils démontèrent les binious et les bombardes et subtilisèrent toutes les hanches. Le lendemain matin, lorsque les musiciens commencèrent à souffler dans leurs instruments pour les accorder, aucun son ne sortit. Affolés, ils s'aperçurent de l'absence des hanches. Il fallait les remplacer tout de suite, sinon leur réputation serait à jamais ternie. Ils coururent dans la dune et coupèrent trois roseaux. Pour la fin du repas, tout était en ordre. On s'apprêtait à danser. Les joueurs de biniou gonflèrent la poche de leur instrument. Les joueurs de bombarde prirent leur souffle. Les invités en restèrent bouche bée. Au lieu de jouer seulement de la musique, les instruments chantaient. Chantaient des paroles. Et ces paroles disaient « Le roi marche à les oreilles du cheval Morvache, le roi marche à les oreilles du cheval Morvache. » Alors le vent s'engouffra dans la cour du château et arracha la coiffure du roi. Et tout le monde vit. Tout le monde vit dans le château que le roi Marche avait vraiment les oreilles du cheval Morvache. Le roi ne put supporter cette honte. Les yeux pleins de larmes, il s'enfuit. Il courut. Il courut longtemps jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la dernière falaise. Il se jeta à l'eau. Thank you. Certains disent que le roi Marche s'est noyé, mais d'autres affirment que la princesse Biche a eu pitié de lui, car bien des années après, quelqu'un l'a rencontré. Il était alors le roi de Grande-Bretagne de l'autre côté de la mer, et s'apprêtait à épouser une femme très belle, qui s'appelait Iseut. On dit qu'alors, il n'avait plus les oreilles de cheval.
Thank you. Thank you.